Chapitre 31. Faux abbés, faux billets, fausses dettes, faux amours. Grâce à l'adresse d'Europe, la partie la plus menaçante des 60 000 francs de dettes qui pesaient sur Esther et sur Lucien fut acquittée. Lucien et l'abbé purent respirer pendant un moment. Comme deux bêtes fauves poursuivies qui lappent un peu d'eau au bord de quelque marée, ils purent continuer à côtoyer les précipices, le long desquels l'homme fort conduisait l'homme faible, ou au gibet, ou à la fortune. « Aujourd'hui, dit le faux prêtre à sa créature, nous jouons le tout pour le tout. Mais, heureusement, les cartes sont biseautées. » Pendant quelque temps, Lucien fut assidu, par ordre de son terrible mentor, auprès de Madame de Sérisy. En effet, Lucien ne devait pas être soupçonné d'avoir une fille entretenue pour maîtresse. Il trouva d'ailleurs dans le plaisir d'être aimé, dans l'entraînement d'une vie mondaine, une force d'emprunt pour s'étourdir. Il obéissait à Mademoiselle Clotilde de Grandlieu en ne la voyant plus qu'au bois ou aux Champs-Élysées. Le lendemain du jour où Esther fut enfermée dans la maison du garde, l'être, pour elle problématique et terrible qui lui pesait sur le cœur, vint lui proposer de signer en blanc trois papiers timbrés, aggravés de ces mots torsionnaires, « Accepté pour 60 000 francs sur le premier », accepté pour 120 000 francs sur le second, accepté pour 120 000 francs sur le troisième. En tout, 300 000 francs d'acceptation. En mettant « bon pour », vous faites un simple billet. Le mot « accepté » constitue la lettre de change et vous soumet à la contrainte par corps. Ce mot fait encourir à celui qui le signe imprudemment 5 ans de prison, une peine que le tribunal de police correctionnelle n'inflige presque jamais, et que la cour d'assises applique à des scélérats. La loi sur la contrainte par corps est un reste des temps de barbarie qui joint à sa stupidité le rare mérite d'être inutile en ce qu'elle n'atteint jamais les fripons. « Il s'agit, dit l'Espagnol à Esther, de tirer Lucien d'embarras. Nous avons 60 000 francs de dette et, avec ces 300 000 francs, nous nous en tirerons peut-être. » Après avoir antidaté de 6 mois les lettres de change, l'abbé les fit tirer sur Esther par un homme incompris de la police correctionnelle et dont les aventures, malgré le bruit qu'elles ont fait, furent bientôt oubliées, perdues, couvertes par le tapage de la Grande Symphonie de juillet 1830. Ce jeune homme, un des plus audacieux chevaliers d'industrie, fils d'un huissier de Boulogne près Paris, se nomme Georges-Marie d'Estourny. Le père, obligé de vendre sa charge en des circonstances peu prospères, laissa vers 1824 son fils sans aucune ressource, après lui avoir donné cette brillante éducation, la folie des petits bourgeois pour leurs enfants. À 23 ans, le jeune et brillant élève en droit avait déjà renié son père en écrivant ainsi son nom sur ses cartes, Georges d'Estourny, en 2 mots. Cette carte donnait à son personnage un parfum d'aristocratie. Ce fashionable eut l'audace de prendre Tilbury, groom, et de hanter les clubs. Un mot expliquera tout. Il faisait des affaires à la bourse avec l'argent des femmes entretenues dont il était le confident. Enfin, il succomba devant la police correctionnelle où il comparut, accusé de se servir de cartes trop heureuses. Il avait des complices, des jeunes gens corrompus par lui, ses séides obligés, les compères de son élégance et de son crédit. Obligé de fuir, il négligea de payer ses différences à la bourse. Tout Paris, le Paris des loups-cerviers et des clubs, des boulevards et des industriels, tremblait encore de cette double affaire. Au temps de sa splendeur, Georges d'Estourny, joli garçon, bon enfant surtout, généreux comme un chef de voleur, avait protégé la torpille pendant quelques mois. Le faux Espagnol basa sa spéculation sur l'acquaintance d'Esther avec ce célèbre escroc, accident particulier aux femmes de cette classe. Georges d'Estourny, dont l'ambition s'était enhardie avec le succès, avait pris sous sa protection un homme venu du fond d'un département pour faire des affaires à Paris et que le Parti libéral voulait indemniser de condamnations encourues avec courage dans la lutte de la presse contre le gouvernement de Charles X, dont la persécution s'était ralentie pendant le ministère Martignac. On avait alors gracié le sieur Cérizé, ce gérant responsable surnommé le courageux Cérizé. Or Cérizé, patronné pour la forme par les sommités de la gauche, fonda une maison qui tenait à la fois à l'agence d'affaires, à la banque et à la maison de commission. Ce fut une de ces positions qui ressemblent dans le commerce à ces domestiques annoncés dans les petites affiches, comme pouvant et sachant tout faire. Cerizet fut très heureux de se lier avec Georges d'Estourny qui le forma. Esther, en vertu de l'anecdote sur Ninon, pouvait passer pour être la fidèle dépositaire d'une portion de la fortune de Georges d'Estourny. Un endos en blanc, signé Georges d'Estourny, rendit Carlos Herrera maître des valeurs qu'il avait créées. Ce faux n'avait aucun danger, du moment où, soit Mademoiselle Esther, soit quelqu'un pour elle, pouvait ou devait payer. Après avoir pris des renseignements sur la maison Cerizet, Jacques Collin y reconnut l'un de ces personnages obscurs, décidés à faire fortune, mais légalement. Cerizet, le vrai dépositaire de d'Estourny, restait nanti de sommes importantes, alors engagées dans la hausse, à la bourse, et qui permettait à Cerizet de se dire banquier. Tout cela se fait à Paris. On méprise un homme, on n'en méprise pas l'argent. L'abbé se rendit chez Cerizet dans l'intention de le travailler à sa manière, car il se trouvait par hasard maître de tous les secrets de ce digne associé de d'Estourny. Le courageux Cerizet demeurait dans un entresol, rue du Gros-Chenet, et l'abbé, qui se fit mystérieusement annoncer comme venant de la part de Georges d'Estourny, surprit le soi-disant banquier pâle de cette annonce. L'abbé vit, dans un modeste cabinet, un petit homme à cheveux rares et blonds, et reconnut en lui, d'après la description que lui en avait faite Lucien, le Judas de David Séchard. « Pouvons-nous parler ici sans crainte d'être entendus ?» dit l'Espagnol, métamorphosé subitement en anglais à cheveux rouges, à lunettes bleues, aussi propres, aussi nettes qu'un puritain allant aux prêches. « Et pourquoi, monsieur ?» dit Cerizet. « Qui êtes-vous » « Monsieur William Barker, créancier de monsieur d'Estourny. Mais je vais démontrer la nécessité de fermer vos portes, puisque vous le désirez. » « Nous savons, monsieur, quelles ont été vos relations avec les petits Clos, les Cointet et les Séchard d'Angoulême. » À ces mots, Cerizet s'élança vers la porte et la ferma, revint à une autre porte qui donnait dans une chambre à coucher, la verrouilla. Puis il dit à l'inconnu « Plus bas, monsieur !» Et il examina le faux anglais en lui disant « Que voulez-vous de moi ?»« Mon Dieu !» reprit William Barker, « chacun pour soi dans ce monde !» « Vous avez les fonds de ce drôle de d'Estourny. Rassurez-vous, je ne viens pas vous les demander. Mais pressé par moi, ce fripon, qui mérite la corde entre nous, m'a donné ses valeurs en me disant qu'il pouvait y avoir quelque chance de les réaliser. Et comme je ne veux pas poursuivre en mon nom, il m'a dit que vous ne me refuseriez pas le vôtre. » Cerizet regarda la lettre de change et dit « Mais il n'est plus à Francfort ?»« Je le sais, » répondit le faux Barker. Mais il pouvait encore y être à la date de ses traites. « Mais je ne veux pas être responsable, » dit Cerizet. « Je ne vous demande pas ce sacrifice, » reprit le faux anglais. « Vous pouvez être chargé de les recevoir. Acquittez-les et je me charge d'opérer le recouvrement. » Je suis étonné de voir à d'Estourny autant de défiance de moi, » reprit Cerizet. « Il sait bien des choses, » répondit l'Espagnol, « mais ne le blâmez pas d'avoir mis ses œufs dans plusieurs paniers. » « Est-ce que vous croiriez ?» demanda le petit faiseur d'affaires en rendant aux faux anglais les lettres de change acquittées et en règle. « Je crois que vous garderez bien ces fonds, » dit le faux anglais. « J'en suis sûr. Ils sont déjà jetés sur le tapis vert de la bourse. Ma fortune est intéressée à les perdre ostensiblement, » dit William Barker. « Monsieur !» s'écria Cerizet. « Tenez, mon cher monsieur Cerizet, » dit froidement Barker en interrompant Cerizet, « vous me rendriez un service en me facilitant cette rentrée. Ayez la complaisance de m'écrire une lettre où vous disiez que vous me remettez ces valeurs acquittées pour le compte de d'Estourny et que l'huissier poursuivant devra considérer le porteur de la lettre comme le possesseur de ces trois traites. « Voulez-vous me dire vos noms ?»« Pas de nom, » répondit le faux anglais. « Mettez le porteur de cette lettre et des valeurs. » « Vous allez être bien payé de cette complaisance. »« Et comment ?» dit Cerizet. « Par un seul mot, vous resterez en France, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. »« Eh bien, jamais Georges d'Estourny n'y rentrera. »« Et pourquoi ?»« Il y a plus de 5 personnes qui, à ma connaissance, l'assassineraient, et il le sait. »« Je ne m'étonne plus qu'il me demande de quoi faire une pacotille pour les Indes, » s'écria Cerizet. et il m'a malheureusement obligé d'engager tout dans les fonds. Nous sommes déjà débiteurs de différence. Je vise au jour le jour. Tirez votre épingle du jeu.
Ah, si j'avais su cela plus tôt, s'écria Cérizet, j'ai manqué ma fortune.
Un dernier mot, dit Berker. Discrétion, vous en êtes capable. Mais ce qui peut être est moins sûr, fidélité. Nous nous reverrons et je vous ferai faire fortune. Après avoir jeté dans cette âme de boue un espoir qui devait en assurer la discrétion pendant longtemps, Berker se rendit chez un huissier sur lequel il pouvait compter et le chargea d'obtenir des jugements définitifs contre Esther.
« On paiera, dit-il à l'huissier, c'est une affaire d'honneur, nous voulons seulement être en règle. »
Il fit représenter Mademoiselle Esther au tribunal de commerce pour que les jugements fussent contradictoires. L'huissier, prié d'agir poliment, mit sous enveloppe tous les actes de procédure, vint saisir lui-même le mobilier rue Tête-Boue, où il fut reçu par Europe. La contrainte par corps une fois dénoncée, Esther fut ostensiblement sous le coup de 300 et quelques mille francs de dettes indiscutables. Jacques Collin ne fit pas en ceci de grands frais d'invention. Ce vaudeville de fausses dettes se joue à Paris très souvent. Il existe des sous-gobsèques, des sous-gigonnets, qui, moyennant une prime, se prêtent à ce calembour, car ils plaisantent de ce tour. Tout en France se fait en riant. On rançonne ainsi soit des parents récalcitrants, soit des passions qui lésineraient, mais qui tous, devant une nécessité flagrante ou quelque prétendu déshonneur, s'exécutent. Maxime de Trailles avait usé très souvent de ce moyen, renouvelé des comédies du vieux répertoire. Seulement Carlos Herrera, qui voulait sauver et l'honneur de sa robe et celui de Lucien, avait eu recours à un faux sans aucun danger, mais assez souvent pratiqué pour qu'en ce moment la justice s'en émeuve. Il se tient, dit-on, une bourse des effets faux aux environs du Palais Royal, où pour 3 francs, on vous donne une signature. Avant d'entamer la question de ces 100 000 écus destinés à faire sentinelle à la porte de la chambre à coucher, Carlos se promit de faire payer, au préalable, 100 000 autres francs à M. de Nucingen. Voici comment. Par ses ordres, Asie se posa, vis-à-vis de l'amoureux baron, en vieille femme au courant des affaires de la belle inconnue. Jusqu'à présent, les peintres de mœurs ont mis en scène beaucoup d'usuriers. Mais on a oublié l'usurière, la Madame la Ressource d'aujourd'hui, personnage excessivement curieux, appelé décemment « marchand de la toilette » et qu'allait jouer la féroce Asie, à qui Carlos trouva le physique de l'emploi. « Tu t'appelleras Madame de Saint-Estève, lui dit-il. » L'abbé voulut voir Asie habillée. La fausse entremetteuse vint en robe de damas à fleurs, provenant de rideaux décrochés à quelques boudoirs saisis, ayant un de ces châles de cachemire passés, usés, invendables, qui finissent leur vie au dos de ces femmes. Elle portait une collerette en dentelle magnifique, mais éraillée, et un affreux chapeau. Mais elle était chaussée en souliers de peau d'Irlande, sur le bord desquels sa chair faisait l'effet d'un bourrelet de soie noire à jour.
« Et la boucle de ma ceinture ?» dit-elle en montrant une orfèvrerie suspecte que repoussait son ventre de cuisinière. « Hein ? Quel genre ! Et mon tour, comme il m'en l'est dit gentiment !»«
Sois mielleuse d'abord, lui dit Carlos, sois craintive, presque défiante comme une chatte, et fais surtout rougir le baron d'avoir employé la police sans que tu paraisses avoir à trembler devant les agents. » Enfin, donne à entendre à la pratique, en termes plus ou moins clairs, que tu défies toutes les polices du monde de savoir où se trouve la belle. Cache bien tes traces. Quand le baron t'aura donné le droit de lui frapper sur le ventre en l'appelant « gros corrompu », deviens insolente et fais-le aller comme un laquais. Menacé de ne plus revoir l'entremetteuse s'il se livrait au moindre espionnage, Nucingen voyait Asie en allant à la bourse, à pied, mystérieusement, dans un misérable entresol de la rue Neuve-Saint-Marc, un appartement prêté, par qui ? Le baron ne put jamais obtenir la moindre lumière à ce sujet. Ces boueux sentiers, combien de fois les millionnaires amoureux les ont-ils côtoyés et avec quelles délices ? Les pavés de Paris le savent. Madame de Saint-Estève fit arriver, d'espérance en désespoir, en relayant l'un par l'autre, le baron à vouloir être mis au courant de tout ce qui concerne l'inconnu, à tout prix. Pendant ce temps, l'huissier marchait, et marchait d'autant mieux que, ne trouvant aucune résistance chez Esther, il agissait dans les délais légaux, sans perdre 24 heures.
Lucien, conduit par l'abbé, visita 5 ou 6 fois la recluse à Saint-Germain. Le féroce conducteur de ses machinations avait jugé ses entrevues nécessaires pour empêcher Esther de dépérir, car sa beauté passait à l'état de capitale. Au moment de quitter la maison du garde, il amena Lucien et la pauvre courtisane au bord d'un chemin désert, à un endroit d'où l'on voyait Paris et où personne ne pouvait les entendre. Tous trois, ils s'assirent au soleil levant, sous un tronçon de peupliers abattus, devant ce paysage, un des plus magnifiques du monde et qui embrasse les cours de la Seine, Montmartre, Paris, Saint-Denis. « Mes enfants, dit Carlos, votre rêve est fini. Toi, ma petite, tu ne reverras plus Lucien, ou si tu le vois, tu dois l'avoir connu il y a 5 ans, pendant quelques jours seulement. « Voilà donc ma mort arrivée, dit-elle sans verser une larme. « Et voilà 5 ans que tu es malade, reprit l'abbé. Suppose-toi poitrinaire et meurs sans nous ennuyer de tes élégies. Mais tu vas voir que tu peux encore vivre et très bien. Laisse-nous, Lucien, va cueillir des sonnets, lui dit-il en montant d'un champ à quelques pas d'eux. Lucien jeta sur Esther un regard mendiant, un de ces regards propres à ces hommes faibles et avides, plein de tendresse dans le cœur et de lâcheté dans le caractère. Esther lui répondit par un signe de tête qui voulait dire « Je vais écouter le bourreau pour savoir comment je dois poser ma tête sous la hache et j'aurai le courage de bien mourir. » Ce fut si gracieux et en même temps si plein d'horreur que le poète pleura. Esther courut à lui, le serra dans ses bras, but cette larme et lui dit « Sois tranquille !» Un de ces mots qui se disent avec les gestes et les yeux, avec la voix du délire. Carlos se mit à expliquer nettement, sans ambiguïté, souvent avec d'horribles mots propres, la situation critique de Lucien, sa position à l'hôtel de Grandlieu, sa belle vie s'il triomphait, et enfin la nécessité pour Esther de se sacrifier à ce magnifique avenir. « Que faut-il faire ? » s'écria-t-elle, fanatisée. « M'obéir aveuglement, dit Carlos. Et de quoi pourriez-vous vous plaindre ? Il ne tiendra qu'à vous de vous faire un beau sort. Vous allez devenir ce que sont Tullia, Florine, Mariette et la Val-Noble, vos anciennes amies, la maîtresse d'un homme riche que vous n'aimerez pas. Une fois nos affaires faites, notre amoureux est assez riche pour vous rendre heureuse. « Heureuse ! » dit-elle en levant les yeux au ciel. « Vous avez eu 5 ans de paradis, reprit-il. Ne peut-on vivre avec de pareils souvenirs ?»« Je vous obéirai, répondit-elle en essuyant une larme dans le coin de ses yeux. « Ne vous inquiétez pas du reste. Vous l'avez dit, mon amour est une maladie mortelle. » « Ce n'est pas tout, reprit Carlos, il faut rester belle. À 22 ans et demi, vous êtes à votre plus haut point de beauté grâce à votre bonheur. Enfin, redevenez surtout la torpille. Soyez espiègle, dépensière, rusée, sans pitié pour le millionnaire que je vous livre. Écoutez, cet homme a été sans pitié pour bien du monde, il s'est engraissé des fortunes de la veuve et de l'orphelin, vous serez leur vengeance. » Asie viendra vous prendre en fiacre et vous serez à Paris ce soir. Si vous laissiez soupçonner vos liaisons depuis 6 ans avec Lucien, autant vaudrait lui tirer un coup de pistolet dans la tête. On vous demandera ce que vous êtes devenu. Vous répondrez que vous avez été emmené en voyage par un Anglais excessivement jaloux. Vous avez eu jadis assez d'esprit pour bien blaguer, retrouvez tout cet esprit-là. Avez-vous jamais vu un radieux cerf-volant, ce géant des papillons de l'enfance, tout chamarré d'or, planant dans les cieux? Les enfants oublient un moment la corde, un passant la coupe. Le météore donne, en langage de collège, une tête, et il tombe avec une effrayante rapidité. Telle Esther en entendant Carlos.